Aussitôt, il constata que la personne qu'il avait prise pour un homme était une femme. Une femme encore jeune, quoique sa chevelure noire se mêlât de cheveux gris. Une femme d'une élégance très simple, haute de taille, et dont le beau visage avait cette expression lasse et mélancolique que donne l'habitude de souffrir. « Où diable l'ai-je vu ?» se demanda Lupin. « Car sûrement ce sont là des traits, un regard et une physionomie que je connais. » Debout, appuyée contre la table, impassible, elle écoutait Daubrecq. Celui-ci, debout également, lui parlait avec animation. Il tournait le dos à Lupin, mais Lupin, s'étant penché, aperçut une glace où se reflétait l'image du député. Et il fut effrayé de voir avec quels yeux étranges, avec quel air de désir brutal et sauvage, il regardait sa visiteuse. Elle-même dut en être gênée, car elle s'assit et baissa les paupières. Daubrecq alors s'inclina vers elle, et il semblait prêt à l'entourer de ses longs bras aux poings énormes. Et tout à coup, Lupin s'avisa que de grosses larmes roulaient sur le triste visage de la femme. Est-ce la vue de ces larmes qui fit perdre la tête à Daubrecq? D'un mouvement brusque, il étreignit la femme et l'attira contre lui. Elle le repoussa avec une violence haineuse. Et tous deux, après une courte lutte où la figure de l'homme apparut à Lupin, atroce et convulsée, tous deux, dressés l'un contre l'autre, ils s'apostrophèrent comme des ennemis mortels. Puis ils se turent. Daubrecq s'assit. Il avait un air méchant, dur, ironique aussi. Et il parla de nouveau en frappant la table à petits coups secs, comme s'il posait des conditions. Elle ne bougeait plus. Elle le dominait de tout son buste, hautain, distraite et les yeux vagues. Lupin ne la quittait pas du regard, captivé par ce visage énergique et douloureux, et il recherchait vainement à quel souvenir la rattacher, lorsqu'il s'aperçut qu'elle avait tourné légèrement la tête et qu'elle remuait le bras de façon imperceptible. Et son bras s'écartait de son buste, et Lupin vit qu'il y avait à l'extrémité de cette table une carafe coiffée d'un bouchon à tête d'or. La main atteignit la carafe, tâtonna, s'éleva doucement et saisit le bouchon. Un mouvement de tête rapide, un coup d'œil, puis le bouchon fut remis à sa place. Sans aucun doute, ce n'était pas cela que la femme espérait. Crebleu ! Elle aussi est en quête du bouchon de cristal. Décidément, l'affaire se complique tous les jours. Mais ayant de nouveau observé la visiteuse, il fut stupéfait de noter l'expression subite et imprévue de son visage. Une expression terrible, implacable, féroce. Et il vit que la main continuait son manège autour de la table et que par un glissement ininterrompu, par une manœuvre sournoise, elle repoussait des livres et lentement, sûrement, approchée d'un poignard dont la lame brillait parmi les feuilles éparses. Nerveusement, elle agrippa le manche. Daubrecq continuait à discourir. Au-dessus de son dos, sans trembler, la main s'éleva peu à peu. Et Lupin voyait les yeux hagards et forcenés de la femme qui fixait le point même de la nuque qu'elle avait choisie pour y planter son couteau. « Vous êtes en train de faire une bêtise, ma belle dame. » Et il songeait déjà aux moyens de s'enfuir et d'emmener Victoire. Elle hésitait pourtant, le bras dressé. Mais ce ne fut qu'une défaillance brève. Elle serra les dents. Toute sa face, contractée par la haine, se tordit davantage encore. Et elle fit le geste effroyable. Au même instant, Daubrecq s'aplatissait, bondissait de sa chaise et, se retournant, attrapait au vol le frêle poignet de la femme. Chose curieuse, il ne lui adressa aucun reproche, comme si l'acte qu'elle avait tenté ne l'eût point surpris plus qu'un acte ordinaire, très naturel et très simple. Il haussa les épaules, en homme habitué à courir ces sortes de dangers, et il marcha de long en large, silencieux. Elle avait lâché l'arme et elle pleurait, la tête entre ses mains, avec des sanglots qui la secouaient tout entière. Puis il revint près d'elle et il lui dit quelques paroles en frappant encore sur la table. Elle fit signe que non, et comme il insistait, à son tour elle frappa violemment du pied, en criant, et si fort que Lupin entendit « Jamais, jamais !» Alors, sans un mot de plus, il alla chercher le manteau de fourrure qu'elle avait apporté et le posa sur les épaules de la femme, tandis qu'elle s'enveloppait le visage d'une dentelle. Et il la reconduisit. 2 minutes plus tard, la grille du jardin se refermait. Dommage que je ne puisse pas courir après cette étrange personne et jaser un peu avec elle sur le Dobrec. M'est avis qu'à nous deux, on ferait de la bonne besogne. En tout cas, il y avait un point à éclaircir. Le député Dobrec, dont la vie était si réglée, si exemplaire en apparence, ne recevait-il pas certaines visites la nuit, alors que l'hôtel n'était plus surveillé par la police? Il chargea Victoire de prévenir 2 hommes de sa bande pour qu'ils eussent à faire le guet pendant plusieurs jours, et lui-même, la nuit suivante, se tint éveillé. Comme la veille, à 4 heures du matin, il entendit du bruit. Comme la veille, le député introduisit quelqu'un. Lupin descendit vivement son échelle et, tout de suite, en arrivant au niveau de l'imposte, il aperçut un homme qui se traînait aux pieds de Dobrec, qui lui embrassait les genoux avec un désespoir frénétique et qui, lui aussi, pleurait convulsivement. Plusieurs fois, Dobrec le repoussa en riant. Mais l'homme se cramponnait. On eût dit qu'il était fou. Et ce fut dans un véritable accès de folie que, se relevant à moitié, il empoigna le député à la gorge et le renversa sur un fauteuil. Dobrec se débattit, impuissant d'abord et les veines gonflées, mais d'une force peu commune, il ne tarda pas à reprendre le dessus et à réduire son adversaire à l'immobilité. Le tenant alors d'une main, de l'autre il le gifla, 2 fois, à toute volée. L'homme se releva lentement. Il était livide et vacillait sur ses jambes. Il attendit un moment comme pour reprendre son sang-froid. Et, avec un calme effrayant, il tira de sa poche un revolver qu'il braqua sur Dobrec. Dobrec ne broncha pas. Il souriait même d'un air de défi, et sans plus s'émouvoir que s'il eût été visé par le pistolet d'un enfant. Durant 15 à 20 secondes peut-être, l'homme resta le bras tendu en face de son ennemi. Puis, toujours avec la même lenteur où se révélait une maîtrise d'autant plus impressionnante qu'elle succédait à une crise d'agitation extrême, il rentra à son arme et, dans une autre poche, saisit son portefeuille. Dobrec s'avança. Le portefeuille fut déplié. Une liasse de billets de banque apparut. Dobrec s'en empara vivement et les compta. C'étaient des billets de 1 000 francs. Il y en avait 30. L'homme regardait. Il n'eut pas un geste de révolte, pas une protestation. Visiblement, il comprenait l'inutilité des paroles. Dobrec était de ceux qu'on ne fléchit pas. Pourquoi perdrait-il son temps à le supplier ou même à se venger de lui par des outrages et des menaces vaines? Pouvait-il atteindre cet ennemi inaccessible? La mort même de Dobrec ne le délivrerait pas de Dobrec. Il prit son chapeau et s'en alla. À 11 heures du matin, en rentrant du marché, Victoire remit à Lupin un mot que lui envoyaient ses complices. L'homme qui est venu cette nuit chez Dobrec est le député Langeroux, président de la gauche indépendante. Peu de fortune, famille nombreuse. Allons, Dobrec n'est autre chose qu'un maître chanteur. Mais saperlotte, les moyens d'action qu'il emploie sont rudement efficaces. Les événements donnèrent une nouvelle force à la supposition de Lupin. 3 jours après, il vint un autre visiteur qui remit à Daubrecq une somme importante. Et il en vint un autre le surlendemain qui laissa un collier de perles. Le premier se nommait De Chaumont, sénateur, ancien ministre. Le second était le marquis d'Albufex, député bonapartiste, ancien chef du bureau politique du prince Napoléon. Pour ces deux-là, la scène fut à peu près semblable à l'entretien du député Langeroux. Scène violente et tragique, et qui se termina par la victoire de Daubrecq. Et ainsi de suite, pensa Lupin quand il eut ses renseignements. J'ai assisté à 4 visites. Je n'en saurais pas davantage s'il y en a 10, 20 ou 30. Il me suffit de connaître, par mes amis en faction, le nom des visiteurs. Irais-je les voir? Pourquoi faire? Ils n'ont aucune raison pour se confier à moi. D'autre part, dois-je m'attarder ici à des investigations qui n'avancent pas et que Victoire peut tout aussi bien continuer seule? Il était fort embarrassé. Les nouvelles de l'instruction dirigée contre Gilbert et Vaucheray devenaient de plus en plus mauvaises. Les jours s'écoulaient, et il n'était pas une heure sans se demander, et avec quelle angoisse, si tous ses efforts n'aboutiraient pas, en admettant qu'il réussit à des résultats dérisoires et absolument étrangers au but qu'il poursuivait. Car enfin, une fois démêlées les manœuvres clandestines de Daubrecq, aurait-il pour cela les moyens de secourir Gilbert et Vaucheray? Ce jour-là, un incident mit fin à son indécision. Après le déjeuner, Victoire entendit, par bribes, une conversation téléphonique de Daubrecq. De ce que rapporta Victoire, Lupin conclut que le député avait rendez-vous à 8h30 avec une dame et qu'il devait la conduire dans un théâtre.
« Je prendrai une baignoire comme il y a 6 semaines. J'espère que pendant ce temps-là, je ne serai pas cambriolé. »
Pour Lupin, les choses ne firent pas de doute. Daubrecq allait employer sa soirée de la même façon qu'il l'avait employée 6 semaines auparavant, tandis que l'on cambriolait sa villa d'Enghien. Connaître la personne qu'il devait retrouver, savoir peut-être aussi comment Gilbert et Vaucheray avaient appris que l'absence de Daubrecq durerait de 8h du soir à 1h du matin, c'était d'une importance capitale. Pendant l'après-midi, avec l'assistance de Victoire, et sachant par elle que Daubrecq rentrait dîner plus tôt que de coutume, Lupin sortit de l'hôtel. Il passa chez lui, rue Chateaubriand, manda par téléphone 3 de ses amis, endossa un frac et se fit, comme il disait, sa tête de prince russe, à cheveux blonds et à favoris coupés ras.